Sur la piste animale de Baptiste Morisot. Chapitre 5, cosmologie du lombric. Quatrième partie. Toutes ces pratiques, et mille autres, commencent par une sensibilité exacerbée aux autres manières d'être vivant, et par un animisme serein qui prend la forme d'une hypothèse de travail sans amphigourie mystique. Les autres êtres vivants ne sont pas des choses. Ils sont des centres d'agir et de pâtir. Ils sont des points de vue tissés et agissant sur le monde suivant leurs normes propres. Ils sont des êtres à deux faces, au sens minimal, où ils ont quelque chose comme un dedans au dedans. Ils ont des intérêts. Même si leur dedans et leurs intérêts ne sont pas pensables sur le même modèle que les nôtres. Avoir un dedans signifie simplement ici ne pas être une chose, mais un centre configurateur du monde autour, en un milieu de vie propre. Et ce centre d'action qu'ils sont, ces perspectives, ce dedans, sont invisibles. Nous sommes voués à ne pas les voir, pas plus qu'on ne voit du dedans les sentiments des gens qu'on aime. Mais rien n'existe sans laisser de traces. C'est l'arcane du pisteur, sa loi secrète. L'invisible laisse des traces visibles. Les dedans inaccessibles des autres vivants, loups, bactéries et champignons qui font vivre les sols, arbres qui communiquent, abeilles qui s'orientent pour polliniser le monde, se donnent à voir par les indices visibles qu'ils laissent, par tout ce qui a lieu et qui ne peut s'expliquer autrement que par le postulat tranquille de cet invisible. Ce sont ces traces qui appellent le pistage. Le pistage n'est que le nom de l'attention aux marques visibles des dedans invisibles des autres formes de vie, de leur manière d'être vivant, que ce soit des lombrics, des simples ou des panthères. En s'exerçant au pistage comme attitude d'intense disponibilité à l'art des autres d'envoyer des signes, d'être chez soi, parmi nous mais par eux-mêmes, il devient possible de faire une autre expérience de la vie tout autour, comme une communauté omniprésente dont il faut connaître les mœurs pour vivre avec elle et vivre d'elle. Cela crée un sentiment de complétude que je n'arrive pas à expliquer. Par contraste, on peut se demander si les divertissements pascaliens ne sont pas des stratégies d'évitement, non pour oublier d'abord notre propre mortalité, mais pour combler l'absence de cette vie. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, dit Pascal, exprimant par là l'archétype du sentiment de solitude cosmique des modernes. Mais pourquoi toute l'ethnographie des peuples premiers qui vivent encore en cohabitant dans leur communauté écologique n'évoque-t-elle jamais cette angoisse du silence du monde et de la solitude cosmique qui est pour Pascal la condition humaine universelle? Pascal a bien vu le symptôme, mais son diagnostic est peut-être erroné. Ce n'est pas de notre mortalité ou du sentiment d'absurde dans un cosmos muet dont il faudrait se divertir, mais du silence d'un monde vivant transformé en réserve de choses muettes et de ressources à portée de main. Le silence de l'univers infini n'est pas une condition humaine fondamentale, mais un effet tardif de la perte de contact avec nos communautés écologiques, probablement initiées au néolithique, puis infléchies et démultipliées par la modernité. L'univers vivant n'est pas silencieux. Il est saturé de signes. Il est toujours en champ complexe, en interprétation nécessaire. C'est probablement le caractère urbain de la vie de Pascal et l'ontologie naturaliste naissante, permise par la mise à distance des communautés biotiques, des points de vue spatiaux, l'enracinement dans les villes, ontologique, le refus de reconnaître une consistance ontologique à tout ce qui n'est pas humain, et technique, l'instrumentalisation généralisée du vivant par les modernes, qui permettent de fantasmer un silence, de créer le silence assourdissant des espaces infinis. Car derrière la clôture, ou dans le terrain vague, ou à la fenêtre, pour qui veut ou sait écouter. Il n'y a pas de silence. On pourrait avancer que notre sensation de solitude cosmique est proportionnelle à notre cécité dans les forêts. Si la forêt est plus loin, l'ensemble des lieux où le vivant s'exprime, c'est-à-dire partout, hors les centres commerciaux, ont pu devenir les lieux privilégiés de la crise de solitude métaphysique, chantée par les poètes romantiques, c'est parce que nous les avons arpentés en aveugle. C'est peut-être parce que nous ne savons plus vraiment reconnaître et lire les traces et signes de la vie que nous pouvons avoir le sentiment d'être profondément seuls dans une forêt, et plus loin dans le monde. Autrement dit, ce n'est pas l'univers vivant qui est muet. C'est nous qui ne savons plus l'entendre ni le lire. Le vivant n'est plus un réseau de signification dans lequel l'humain peut s'orienter, comme chez lui. Il est nature morte, paysage esthétique déparé de ses significations et mystères écologiques, éthologiques, évolutionnistes, et ainsi page blanche pour angoisse métaphysique. L'Actuca seriola est une plante sauvage fascinante. Le plan de ses feuilles indique l'axe nord-sud. C'est une boussole vivante qui indique les points cardinaux aux voyageurs égarés qui sait la reconnaître. C'est qu'elle oriente ses feuilles de manière à leur éviter la brûlure du soleil. Pour qui la cherche dans une friche urbaine? Pour qui décrypte sur le bord d'une route l'étrange symbiose entre une buse variable et une autoroute? Je te nettoie, tu me nourris. Ou remercie les cervidés pour une sente salvatrice dans des taillis épais et la creuse pour eux, ou sait composer des alliances heureuses de végétaux vivriers sur son balcon, il n'y a probablement pas de solitude cosmique. On ne change de métaphysique qu'en changeant de pratique. Dès lors, la pratique du pistage, parmi d'autres, acquiert une autre dimension, celle de se réapproprier une place délicate dans le monde vivant, de lire, donner et échanger des signes, de comprendre et composer avec la richesse créative du vivant dans ses relations à l'humain. De bricoler, enfin, une cosmologie un peu plus aimable que la nôtre, un sentiment peut-être un peu libérateur, celui de vivre en vivant, riche de ses héritages intérieurs, tissé à des vivants.